This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffre, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jazzons l'histoire ou quand le jazz retrouve des repères, une émission de Gérard Viols et Alain Vaquier, réalisée par Léna Kim. Cette année-là, il se passe beaucoup de choses parce que nous sommes à quelques années de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le pays est dévasté, l'ensemble de l'Europe a été dévasté et donc la situation économique est très difficile. On peut relever par exemple que l'impôt sur le revenu est en forte augmentation, 150 milliards de francs sur les ménages et les entreprises vont être prélevés. La France se remet au travail avec difficulté. Le franc va être dévalué de 44,45%. On bloque la fabrication de billets et on supprime certaines coupures, dont une, celle de 5 000 francs. Les prix seront bloqués et la baisse de 10% du prix de l'électricité et du prix du carburant vont légèrement soulager la population française et la population européenne qui est un petit peu dans le même état. Entre les États-Unis et l'Europe, va s'esquisser une politique d'aide pour essayer de rendre cette reprise moins difficile. Et c'est un sénateur américain qui va donner son nom à ce plan. Il s'agit du plan Marshall. Ce plan va se manifester notamment par une aide directe avec de la nourriture, des vivres, parce que la situation est vraiment difficile, et puis par des investissements qui vont commencer en 1948 et durer quelques années jusqu'à ce que les différents pays européens touchés par la guerre puissent vivre de manière autonome. Et c'est ainsi que, au cours du mois d'avril de 1948, on assiste à l'arrivée du premier cargo de vivres à destination de la population française.
Pendant que les volcans se rallument et que les coutumes reprennent vie, le vieux monde fait chaque jour un pas de plus sur la route de son relèvement. À Bordeaux, en compagnie de M. Jefferson Caffrey, ambassadeur des États-Unis, deux ministres français, M. Pinault et Coudet du Foresto, sont venus accueillir le premier cargo chargé de fournitures envoyées à la France au titre du plan Marshall. On sait que le plan Marshall prévoit pour la première année l'ouverture d'un crédit de quelque 250 milliards de francs qui arriveront sous forme de blé permettant la soudure, de matières premières et d'outillage.
Une archive des actualités françaises de l'époque. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que l'inflation se monte à 59%, ce qui veut dire que le franc ne vaut pas très cher, et ce qui justifie cette dévaluation à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. En réalité, le budget de l'État est en fort déficit. Quand aujourd'hui on parle de 3, 4, 5% de déficit, il était de 25% du budget de l'État qui était absorbé par le déficit en 1948. Alors cette aide liée au plan Marshall, qui va couvrir tous les pays de l'Europe de l'Ouest, va donc concerner la France pour une aide financière qui va s'écouler de 1948 jusqu'en 1952 et qui va donc permettre d'organiser et de stimuler la reconstruction du pays. Cette situation va donc rapprocher l'ensemble des pays européens et ceux-ci vont ainsi se mettre à collaborer sur d'autres bases que celles de la guerre, bien sûr, sur des bases économiques. Et cela va donner la naissance de l'idée d'une mutualisation, d'une coopération européenne qui est certainement les prémices de ce que l'on connaît aujourd'hui en matière de communauté européenne économique.
À Paris, suite aux travaux de la conférence des 16 tenue récemment, les ministres des Affaires étrangères des 16 nations européennes intéressées au plan Marshall ont signé la Convention de coopération économique européenne qui doit, dans l'accroissement de la production générale et le développement des échanges, permettre de reconstruire une saine économie et relever l'Europe.
Comme je le disais, la situation est très difficile, elle est très difficile notamment pour les mineurs. Il faut se rendre compte qu'en 1948, on n'est pas encore branché sur des énergies comme le pétrole, encore moins sur l'énergie nucléaire, et que la principale source d'énergie, c'est le charbon. Et donc, la production du charbon, cette production détermine toute la suite et donc l'ensemble de l'industrie, qu'elle soit primaire ou secondaire. Et c'est ainsi que la situation extrêmement difficile, la baisse des salaires, les prélèvements obligatoires qui augmentent, créent chez les mineurs, entre autres, une réaction de défiance d'abord, et puis de grève. Au point qu'on va parler au cours de l'automne 1948 de grèves insurrectionnelles. En tout cas, le 4 octobre 1948, c'est la grève des mineurs qui est déclenchée, organisée par la CGT.
Devant un tel développement de la situation, le gouvernement arrêtait des mesures exceptionnelles pour rétablir la liberté du travail et assurer la sauvegarde de notre industrie. Devant les violences commises par certains éléments sur les agents des forces de police, des renforts étaient acheminés rapidement vers les points où les occupations des mines se poursuivaient.
S'ensuit donc, à travers ces différentes grèves qui couvrent d'abord le nord de la France, puis donc tous les bassins houillers du nord, puis le sud, autour de Cazeville, autour de Carmaux. Donc, c'est l'ensemble des houillères françaises qui sont touchées par ces grèves, ce qui inquiète beaucoup le gouvernement qui voit là, évidemment, un coup d'arrêt mis au développement économique qu'il essaie de mettre en place. Qui plus est, des équipes de sécurité ont été supprimées dans les mines et le gouvernement réagit donc en envoyant la police, les gendarmes, et ce qui crée évidemment un très grand conflit. Et le 16 octobre 1948, ont lieu des affrontements très violents entre les grévistes et les forces de l'ordre à Saint-Étienne, Carmaux, Mons-les-Mines et Alès, jusqu'à la fin du mois d'octobre. Malgré l'appel le 29 novembre de la CGT à la reprise du travail, les choses ne sont pas si simples et donc la reprise se fait très très lentement. On retiendra qu'après plus d'un mois d'affrontement, il y aura eu 2 morts. Alors la CGT, on a déjà à cette époque un conflit une escalade en termes d'information et de communication. Et la CGT, pour faire contrepoids à l'information qui est diffusée par le gouvernement, va demander à des grévistes ou à des non-grévistes, mais des gens de la Fédération du spectacle qui dépendent de la CGT, de tourner un certain nombre de documents filmés ou radiophoniques et destinés à montrer la réalité du travail des mineurs et le fait que leur grève n'est absolument pas déplacée, bien au contraire. Alors je propose d'écouter le début d'un de ces documents, qui évidemment est de parti pris, mais qui montre bien la réalité du travail des mineurs de l'époque.
La mine, paysages durs et sombres où la poussière noire recouvre tout. La mine, décor de roman, prétexte à belles images, source inépuisable d'effets faciles. Mais la mine, qu'est-ce encore? Surtout et avant tout des hommes. Ces hommes descendent sous terre quand le soleil se lève et ne remontent à la surface qu'avec l'ombre. Poussière de charbon qui de mois en mois pénètre dans les poumons. Ces hommes, ce sont les mineurs, à tout demander et qui ont tout donné. Les grèves héroïques de 41 qui entravèrent la guerre des nazis. Les combats de 44 qui firent plus proche la victoire. Et enfin l'extraordinaire période qui suivit la libération, la bataille du charbon. Alors qu'en 1919, il avait fallu 5 années pour compenser la perte causée par la guerre, en 1945, moins de 2 années suffisent à combler le retard. Les mineurs relèvent la France avec leurs piques, avec leurs bras, avec leur cœur. Et cette période d'enthousiasme et de courage, c'est celle que choisit Daniel Meyer pour traiter les mineurs de roupions. C'est celle que choisit Schumann
pour le reprocher de travailler le dimanche? Quel respect brusquement pour les droits syndicaux? Ou bien ne serait-ce pas plutôt parce que le charbon américain offre ses avantages à tous ses apiristes? Encore une fois, il n'y a plus de sens politique dans la tête d'un mineur de fond que dans celle d'un politicien. Car quoi qu'il puisse advenir de la production minière française, l'effort des mineurs est méconnu, bafoué, saboté par le gouvernement. Leurs délégués sont arbitrairement chassés. Par des décrets de brimade, le ministre Lacoste les exclut du contrôle des caisses de sécurité. La sécurité dans la mine, précaution indispensable, dont dépend l'existence de milliers d'hommes, est insuffisamment assurée. Courrières, Petite Rosselle, Liévin, des blessés affreusement mutilés, des corps écrasés, brûlés, martyrisés. Ce métier, le feriez-vous, messieurs les politiciens? Le feriez-vous pour ce salaire de misère? Le feriez-vous pour 14 300 francs par mois? Les mineurs sont écœurés par toutes ces ignominies. Les organisations syndicales décident un référendum. Les ouvriers chrétiens, les ouvriers FO et la CGT sont en plein accord. Les traîtres osent parler de mouvement politique alors qu'on ne demande qu'un minimum vital indispensable, alors qu'on est ivre de quoi manger tous les jours. Cette grève est juste, cette grève est unanime, elle est votée à 90% des voix. Cependant, la sécurité est assurée partout. Le mineur aime sa mine, il connaît ses responsabilités. Les coqueries sont entretenues avec soin, avec un soin qui montre la bonne volonté et la conscience de tous.
C'est une véritable culture que celle de la mine qui au fond, permet à ces mineurs, à ces travailleurs de fond, de supporter des conditions extrêmement difficiles. Et il faudra attendre les années 60 pour voir peu à peu disparaître tous ces terrils, toutes ces exploitations minières. Cette disparition se faisant d'ailleurs à chaque fois avec de grosses difficultés, avec des conflits, et sachant que, évidemment, d'autres sources d'énergie vont apparaître et donc peu à peu rendre le charbon moins rentable, en tout cas plus difficile, y compris pour les hommes, à extraire. 1948, donc, est une année tournant aussi en matière économique, comme elle l'est cette année-là en matière musicale. Alors hier, nous évoquions la tournée de Dizzy Gillespie en Europe, et notamment à Paris avec le concert historique de fin 1948. Eh bien, nous allons évoquer ce que faisait pendant ce temps-là son partenaire, son complice, en l'occurrence Charlie Parker. Charlie Parker a enregistré, lui, à New York, tenu par beaucoup de choses, par la musique, mais aussi par un certain nombre de substances illicites. Donc, Charlie Parker enregistre le 18 septembre 1948 une composition de son cru, Barbados.
Thank you.
Barbados, une composition de Charlie Parker, donc avec le Charlie Parker All-Star le 18 septembre 1948. Alors Charlie Parker s'est séparé de Dizzy Gillespie l'année précédente et il vient de trouver un nouveau trompettiste, un jeune trompettiste dans un style complètement différent de celui de Dizzy. Il s'agit évidemment de Miles Davis, qui déjà fait ses premiers solos sur la scène. Et ils sont tous les deux accompagnés par John Lewis au piano, qui créera quelques temps plus tard le Modern Jazz Quartet, Curly Russell à la contrebasse, Mac Roach, le maître de la batterie moderne, à la batterie, le tout étant enregistré à New York. Et c'est dans cette même ville que Charlie Parker va enregistrer un de ses standards à lui, bien à lui, et il s'agit de Parker's Mood. Un Charlie Parker très inspiré par ce thème qui laisse la possibilité de beaucoup de choses. Il faut rappeler que le Bird, puisque c'est ainsi qu'on l'appelait, ne jouait jamais la même improvisation, avait une imagination absolument débordante, ce qui le faisait dire à ses accompagnateurs qu'il était à la fois très facile et très difficile à suivre. Alors ce quintet-là est un petit peu un quintet de rêve. C'est un moment où Charlie Parker est au mieux de sa forme. Il maîtrise parfaitement sa musique et il a d'autres idées. Il a envie d'élargir son champ d'investigation. Il a envie peut-être d'aller vers de grandes formations. Il rencontre un musicien latino, en l'occurrence Machito. Je disais qu'à propos de Gillespie, qu'il y avait ce goût pour les sonorités et les rythmes latinos chez les musiciens bebop, eh bien, il en est de même chez Charlie Parker. Et donc, il va enregistrer avec ce musicien afro-cubain, Machito, il va enregistrer un morceau de Gustavo Valdés, Mango Mangue. Mango Mangue, une composition de Gustavo Valdés par le Machito and his Afro-Cuban Orchestra avec en vedette, en guest star, comme on dit, Charlie Parker, enregistré le 20 décembre 1948 à New York. Alors, l'humour n'était jamais absent de ce courant musical qui était le bebop et je vous propose d'écouter ce que Charlie Parker va enregistrer deux mois plus tard. En février, le 5 février 1949, on fait une petite incursion en 49, une composition de Dizzy Gillespie et de Kenny Clarke, dont je vous laisse découvrir le titre.
Opinas. Thank you. Peanuts.
Soul Peanuts, que vous aurez bien sûr reconnu en écoutant les refrains des différents musiciens, alors enregistrés par le Charlie Parker All-Star, donc le 5 février 1949, par Charlie Parker au saxophone alto, Kenny Dorham à la trompette, qui a remplacé ici Miles Davis. Avantageusement, devrais-je dire, j'ai un goût particulier pour ce trompette qui est malheureusement assez méconnu. Oleg au piano, Tommy Potter à la basse, Max Roach à la batterie. Et c'était au Royal Roost de New York. Ainsi s'achève ce troisième épisode de l'année 1948. Demain, il sera question d'une autre histoire.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense à Ewer en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.